France Musique.
Merci d'être à l'écoute de France Musique ce matin. Et comme tous les jours, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Mais ne manquez pas tout à l'heure non plus à 8h55 la chronique de notre démiurge national, Guillaume Thion. Un petit bonjour à Anatole Guillaume Thion et son ami Anatole qui esquisseront aujourd'hui la musique de l'ouverture d'Angélix, marquise de Lascaux, la première opérette participative du néolithique. Alors notre invité du jour, quant à elle, eh bien c'est une pianiste au long courrier qui a décidé d'apporter un peu de beauté et de musique à un peuple qui tente de sortir la tête de l'eau depuis des années, le peuple d'Haïti. Le projet s'appelle tout simplement Haïti Piano Project et commencera le 8 novembre prochain. Elle est avec nous pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Célimène Daudet sur France Musique.
Thank you.
un extrait de l'Orgelbüchlein, le choral BWV 639, Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ, je viens vers toi, c'est ça Célimène Daudet?
C'est ça.
Je viens vers toi, Jésus Christ, avec vous Célimène, au piano, bonjour.
Bonjour Clément.
Merci d'être avec nous ce matin,
merci
dans Musique
vous.
Matin sur France Musique. Bach, un de vos compositeurs fétiches quand
ah
même.
Ah oui,
hein.
Peut-être celui que j'emporterai jusqu'au bout de ma vie.
Sur une île déserte, comme Haïti par exemple.
Pas déserte,
enfin, pas
Haïti.
Déserte.
Mais oui, voilà, c'est vraiment le compositeur qui m'accompagne depuis presque toujours et que je qui est toujours sur mon pupitre et que le,
ah oui.
le père de tous les compositeurs classiques.
Vous en faites un exercice quotidien comme certains musiciens qui jouent au moins une heure de Bach par jour.
Non, c'est pas un exercice, c'est plus un plaisir qu'autre chose en fait. Mais c'est vraiment une musique qui est avec moi toujours et que je joue très régulièrement en concert aussi, qui fait partie de mes programmes très très régulièrement.
Alors cet extrait de l'Orgelbüchlein, c'était extrait d'un disque, un de vos premiers disques, je crois
le premier.
Voilà, qui était autour de Bach, mais il n'y avait pas que des pièces de Bach dessus, il y avait d'autres compositeurs.
Il y avait des compositeurs, plutôt des compositeurs romantiques. Je rendais un hommage à Bach, en fait, au travers des compositeurs romantiques qui lui ont succédé. Donc il y avait aussi César Franck, Félix Mendelssohn, et puis bien sûr du Bach à travers des transcriptions réalisées par Busoni.
Comment on se fabrique un répertoire au fil du temps, Célimène Daudet? On déchiffre beaucoup de choses et puis on sélectionne, on garde ce qui nous parle, ce qui nous plaît?
Oui, il y a des choses, enfin chez moi en tout cas, je ne sais pas si on peut faire des généralités, mais pour moi il y a des choses qui s'imposent et qui tout d'un coup font correspondance les unes avec les autres. Donc il y a des œuvres qu'on joue pendant longtemps, peut-être même qui nous accompagnent depuis l'enfance ou l'adolescence, pendant nos études, et puis qu'on a exploré énormément. Et à un moment donné, ces œuvres-là résonnent avec d'autres œuvres qu'on travaille et entre en résonance, et puis on se rend compte qu'on peut comme ça composer un programme avec une sorte de fil rouge plus ou moins lisible, mais en tout cas il y a quand même quelque chose qui se construit, qui se tisse entre les différentes œuvres et qui pour moi en tout cas permettent de composer un programme soit de disque, soit de récital.
Mais en lien aussi avec la vie personnelle du coup, avec l'évolution de
la
personnalité.
Oui, je pense que c'est indissociable en fait, parce que ce qu'on est en tant que musicien est indissociable de ce qu'on vit et de la manière dont on évolue et dont on se construit en tant que personne. Donc le répertoire qui nous accompagne nous aide à nous construire et à nous développer, à grandir et donc fait partie intégrante de nos vies. Et puis, donc, je pense que c'est une évolution main dans la main de ce qu'on est et puis du répertoire que l'on choisit.
Et on se dit pas, voilà, je choisis un compositeur et je serai un jour le spécialiste de ce compositeur.
Alors moi, je me suis pas dit ça. Non, je me suis pas encore dit ça.
Célimène Daudet, alors vous avez décidé de fonder un nouveau festival de piano un peu particulier, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin pour nous en parler, un peu particulier et un peu loin d'ici, surtout à Haïti. Alors la première édition de ce Haïti Piano Project démarre le 8 novembre prochain, ça se déroulera du 8 au 16 novembre. Pourquoi Haïti ?
Haïti, c'est le pays de mes origines maternelles. Ma mère est haïtienne, et c'est une partie de ma culture. Et j'ai toujours eu envie d'aller en Haïti pour y faire quelque chose. J'avais cet objectif depuis de nombreuses années de créer quelque chose en Haïti, d'apporter quelque chose, de contribuer à l'évolution du pays, à son développement, à son bien-être. Donc et ma première idée, c'était y faire de la musique, tout simplement. Mais pas simplement, je voulais pas simplement y donner un concert, je voulais créer quelque chose qui crée une dynamique. Et ce qui m'a paru le plus évident, ça a été de créer du coup un festival qui pourrait toucher le plus de monde possible, un festival de musique plutôt classique, à dominante classique, mais avec d'autres musiques, ça je vous en parlerai peut-être plus tard. Et puis associé à ce festival, tout un programme d'ateliers pour les enfants, ateliers de création, des masterclass aussi pour les étudiants qui font déjà de la musique, un programme aussi d'ateliers pour des enfants qui n'ont jamais fait de musique, et aussi pour ceux qui sont dans des écoles de musique en Haïti.
Ouais, donc c'est un vrai grand projet.
Oui, c'est un grand projet.
Aux multiples facettes. Mais dites-moi, vous avez grandi en Haïti ?
Non, moi j'ai grandi en France.
Haïti, pardon.
Et j'ai grandi en France. Je suis allée en Haïti quand j'étais toute petite, mais très peu en fait. Mais j'ai toujours eu en moi cette partie culturelle que je connaissais peu en réalité. Je connaissais Haïti à travers ce qu'on m'en avait raconté à la maison, à travers quand même la peinture naïve haïtienne qui est très très connue, et puis chez mes parents il y avait beaucoup de peinture naïve haïtienne, donc la cuisine, je comprends le créole, je le parle pas, ma mère me parlait un peu créole quand j'étais petite, donc je le comprends, mais voilà, c'était vraiment une culture que je regardais de loin et qui m'intriguait et que j'avais envie de connaître. C'est vraiment la question des racines en fait, d'où on vient, comment on se construit, à partir de quelles racines. Et parfois, on a envie de retourner à ces racines, mais pas simplement à titre personnel. C'était vraiment j'avais envie d'une démarche plus large et plus générale.
Comment ils vous ont accueilli là-bas à Haïti quand vous êtes arrivée pour la première fois pour leur présenter ce projet? Est-ce qu'ils ont vu une jeune femme, une jeune artiste qui a du sang haïtien et qui revient voir les siens? Ou est-ce qu'ils se sont méfiés en disant « Oh là là, c'est une occidentale et qui va venir nous expliquer ce que c'est que la culture ?»
Non, j'ai pas ressenti de méfiance, j'ai plutôt ressenti de l'enthousiasme à l'idée que je proposais à ce projet qui était à l'époque vraiment dans les cartons. Hein. C'était il y a un an quand j'y suis allée pour présenter ce projet aux Haïtiens. Et il y avait rien, il y avait vraiment, on démarrait, on partait de zéro. Je leur disais, voilà, j'ai envie de faire venir un piano de concert en Haïti et de créer un festival, ce qui paraissait un peu délirant comme ça. Mais cette idée un peu folle les a quand même, enfin tous les gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai pu en parler au cours de ces semaines de voyage, les gens ont été séduits et ont trouvé que c'était une démarche positive pour le pays aussi, de pouvoir créer quelque chose qui soit au-delà peut-être des problématiques habituelles dont on parle quand on évoque Haïti. Donc c'était vraiment quelque chose de plus positif et plus enthousiasmant peut-être.
Un extrait d'un précédent disque, Célimène Daudet, que vous aviez enregistré avec Amanda Favy au violon, les sonates pour piano et violon de Beethoven. Ici, c'était le final, le rondo final de la 5e sonate de Beethoven, Le Printemps. Alors, on parlait juste avant de ce festival, hein, le IT Project, IT Piano Project. C'est dur, ça, c'est en anglais, il fallait le dire en français. Ben oui, le projet piano d'Haïti,
on peut le dire comme ça, mais en fait, le festival qui va avoir lieu s'appelle le Festival de piano d'Haïti. C'est plus simple.
Ah bah
parce
voilà,
que le
Haïti
Piano Project, ça englobe l'arrivée du piano, les ateliers, le festival. Mais là, le festival s'appelle Festival de piano, tout simplement.
Bah voilà,
ça, c'est facile.
Bien. Oui, c'est beaucoup mieux, voilà. Je préfère. Alors, ce projet à Haïti, le festival, vous allez le donner où? Vous avez trouvé quelle ville? Donc, à Port-au-Prince,
la capitale. Voilà, bien sûr, il y aura quelques concerts à Port-au-Prince, mais ce n'est pas là où se passera la majorité du festival, qui se tiendra à Jacmel, qui est une ville de province en bord de mer. Une magnifique, au sud de l'île, c'est une très jolie ville avec une architecture caribéenne très belle et qui est en fait la ville dite des artistes en Haïti, où il y a énormément d'artistes peintres, plasticiens, de musiciens et ça me semblait assez naturel de démarrer un festival dans la ville des artistes.
Et c'est un festival qui sera accessible quand même, j'imagine, parce que, bon, Haïti, c'est un pays extrêmement pauvre. C'est vrai qu'on en parle souvent de manière tragique quand on en parle dans l'actualité. C'est un pays qui tente de se reconstruire toujours, hein, depuis le terrible séisme de 2010. Et puis, qui est quand même situé dans une partie du monde assez souvent balayée par les tragédies climatiques et géologiques. On l'a vu encore cet été. Alors, bon, Haïti a été un peu épargné par les grands cyclones. C'est plutôt les amis du Nord qui ont dû en souffrir de ces traumatismes-là. Comment ça se passe? Les places sont payantes?
Ah non, les places, tout est gratuit.
Ah oui, d'accord.
Tout est gratuit. Tous les concerts sont gratuits. L'entrée est libre. Les répétitions sont ouvertes au public. Donc chaque matin, ça va être très simple. Chaque matin, de 10h à midi, il y aura des répétitions sur les lieux de concert qui seront ouvertes au public afin que le public qui peut-être n'est pas forcément familier de la musique classique puisse venir regarder les musiciens travailler, éventuellement discuter avec eux, se familiariser avec ce type de concert. Les concerts du soir seront évidemment gratuits. Les ateliers, les masterclass sont aussi gratuites. Tout est complètement accessible. Et les lieux de concert que j'ai choisis sont des lieux qui sont assez emblématiques de la vie des Jacmeliens. Dans la mesure où le premier concert se tiendra en plein air dans un endroit qui s'appelle la promenade du bord de mer, donc ça va être très beau avec la mer derrière, et qui est l'endroit où se promènent les gens en fin de journée, quand ils ont fini leur journée de travail ou voilà de labeur, ils vont se promener dans cet endroit qui est vraiment très agréable. Et donc on fera ce premier concert en plein air, sans chaise, les gens seront debout. L'idée c'est que le public puisse...
Vous avez joué du piano debout?
Moi non.
Ah non, vous serez assise.
Si ça vous fait plaisir, je peux essayer, mais moi je serai assise. Mais le public sera debout parce que l'idée c'est que les gens puissent passer, rester une heure pour le concert ou uniquement passer 5 minutes s'ils veulent passer 5 minutes. Enfin, qu'il n'y ait pas la contrainte de devoir entrer dans une salle, s'asseoir et rester coincé si on n'a pas envie de rester coincé. Ah, donc oui, c'est vraiment très libre.
Et de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des salles de concert?
Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas de salle vraiment de concert. Et donc j'ai bien cherché, beaucoup cherché l'année dernière des lieux qui me semblait à la fois approprié pour donner un concert et aussi qui ait du sens pour les Haïtiens. Et j'ai trouvé un très beau lieu qui est une ancienne halle de stockage de café, parce que Jacmel était la ville principale pour les exportations de café en Haïti il y a maintenant plus d'un siècle. Mais donc il y a des espèces de grands bâtiments magnifiques, industriels, très très beaux, et dans lesquels on fera ces concerts.
Alors, qui va jouer justement dans ces concerts? Vous n'êtes pas la seule.
Ah non, 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 loin de là. J'emmène plein d'amis musiciens. Moi, je joue très peu en réalité, parce que le but, c'est pas de me faire jouer moi, mais plutôt de faire entendre d'autres artistes. Il y a des amis musiciens français qui viennent. Il y a le pianiste Simon Gréchy. Le pianiste Gwendal Giglet,
bien ici à France Musique,
que vous connaissez bien, qui s'est tout de suite, Simon, il s'est tout de suite enthousiasmé pour le projet, ça m'a fait bien plaisir, et il m'a tout de suite dit je serai là, je viendrai, je participerai à tout, donc c'est génial. Ensuite, il y aura le pianiste Gwendal Giglet qui viendra, qui donnera un concert pour les enfants, un concert jeune public qui sera un ciné-concert où il improvisera la partie musicale. Il y aura le violoniste Guillaume Latour, le violoncelliste Louis Rod, Tous les trois joueront d'ailleurs en trio. Et puis il y aura des artistes haïtiens, un jeune pianiste haïtien qui habite à Montréal maintenant, qui s'appelle David Bontemps, deux chanteurs haïtiens, qui sont d'ailleurs pas des chanteurs classiques, et avec lesquels on est en train de travailler, on est en train de finaliser le projet, de travailler sur un répertoire arrangé pour nos instruments classiques et leur musique à eux, qui est de la musique plutôt issue de la musique traditionnelle haïtienne. Donc c'est on essaie de créer quelque chose de nouveau et qui permette de croiser nos cultures.
Alors je crois que la musique traditionnelle haïtienne, ça s'appelle racine.
Ah, ça s'appelle la musique racine.
La musique racine.
Oui, ça s'appelle la musique racine.
Qu'est-ce que c'est ancré, ça exactement?
Ancré dans les racines du
peuple. Ah,
c'est
vraiment ce sens-là?
Ah oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est...
Ça veut dire une musique traditionnelle,
en fait. C'est une musique traditionnelle. Ouais, c'est joli, musique racine.
Ah oui, c'est joli, musique des ancêtres.
Exactement.
En fait, ancré dans le sol. Bah, on va en écouter un extrait, si vous voulez bien. Donc c'est Racine Mapou des Azores. Alors
je parle
pas du tout créole. Alors je peux pas vous le dire, mais peut-être que vous pourriez me le lire, vous. C'est Gangan, mauvais teto.
Ah bah vous le dites très bien.
Bah voilà.
C'est parfait.
Avoudaï, Bila Bila,
Bongo,
Ndavache Gouljida.
Ate
Gangan, mauvais teto, Marele, Gangan, mauvais teto.
Pitalo
Gangan, mauvais teto, Marele, Gangan, mauvais teto. Prêtez-moi visou là pour mal tirer les oiseaux. Gangan mauvais teto,
Gangan mauvais teto, Gangan mauvais teto,
adieu, Gangan mauvais teto, c'est vrai,
Gangan mauvais teto, Gangan mauvais teto, prête un bisou là pour m'attirer les oiseaux,
adieu, prête un bisou là
pour m'attirer les oiseaux, la voix d'un bout de guerre.
L'extrait de musique racine, donc d'un traditionnel haïtien, Gangan Mauvais Teto, du groupe Racine Mapou des Azores. sais pas si vous connaissez.
Non, je les connaissais pas.
Non, pas du tout. En tout cas, je me suis rendu compte en faisant des recherches hier soir qu'il y a non seulement beaucoup de musique traditionnelle à Haïti, mais il y a aussi beaucoup de groupes hein, très vivants, des groupes de jazz qui reprennent un peu la musique traditionnelle, mais qui la transforment.
Oui, en fait, il y a un vrai travail autour de ça en Haïti, que j'ai découvert moi aussi récemment, de musiciens, comme vous le disiez, de jazz, mais aussi d'autres styles musicaux qui s'approprient ces rythmes et ces sonorités de musique traditionnelle, donc musique racine haïtienne, et qui petit à petit créent des métamorphoses à partir de ce terreau. Et d'ailleurs, l'un des pianistes qui vient jouer, dont je parlais tout à l'heure, David Bontemps, qui est aussi compositeur, compose dans un style dit classique, mais à partir de rythmes et de d'accords vaudous, donc issus de la musique racine haïtienne.
Alors justement, je crois que c'est ce qu'on écoutait là, justement. Je crois que c'était une musique vaudou.
Oui, c'est une musique vaudou, oui, pour les cérémonies vaudou. Alors il y a beaucoup
J'espère
ça pendant.
J'espère que ça nous a pas porté malheur.
Non, au contraire.
Ah, le vaudou, c'est positif?
C'est une forme de transe. Non, ça porte pas malheur. Alors, les gens ont peur de ça, je crois.
Mais parce que moi, je croyais que le vaudou, on prenait une poupée, on mettait des aiguilles dedans quand on veut faire du mal à quelqu'un.
Si vous avez des mauvaises intentions, ça va marcher. Essayez, Clément.
J'ai peur des représailles.
Vous avez raison. Vaut mieux faire profil bas.
En tout cas, alors, je suis tombé sur un groupe aussi qui avait l'air super, qui s'appelle les Gypsies de Pétionville. C'est une ville de.
Alors, Pétionville, c'est une ville, en fait, qui est attenante à la capitale Port-au-Prince. En fait, c'est un quartier de Port-au-Prince, exactement. C'est le quartier nord de Port-au-Prince.
Et c'est une sorte de jazz comme ça, une jazz qui revisitait la musique haïtienne. C'est plein de rythmes, enfin, c'est plein de soleil aussi, cette musique-là. En tout cas, il y a quand même une vie musicale.
Il y a une vraie vie musicale, très riche.
Je me suis dit, tiens, Célimène Daudet, elle va leur apporter un peu la musique. Mais non, il y a une vraie vie musicale.
J'apporte pas du tout la musique, j'apporte une forme de musique.
La musique classique,
en tout cas. La musique classique, mais il y a une vraie vie musicale, très riche. Finalement, on se rend compte que dans des pays qui sont parfois en difficulté, la musique est aussi un moyen d'expression très puissant, essentiel même. Il y a énormément d'artistes en Haïti, pas que musiciens, comme je le disais tout à l'heure, il y a des peintres, il y a énormément de poètes. D'ailleurs, dans le festival, j'ai invité un poète haïtien, il y aura un concert qui associera la poésie haïtienne à la musique classique occidentale. Donc non, je ne suis pas celle qui apporte la musique en Haïti, je contribue avec la musique que moi j'aime et qui me semble être aussi rassembleuse et porteuse de très belles choses.
Un festival du métissage que ce Piano Project Haïti, je crois que je ne l'aurais jamais dit dans le même ordre depuis le début de l'émission, qui se tiendra donc à Port-au-Prince et à Jacmel entre le 8 et le 16 novembre prochain. Est-ce que y a l'enseignement de la musique là-bas, ça fonctionne aussi? Il y a des conservatoires, des écoles de musique chez nous?
Il y a des écoles de musique, on ne peut pas dire comme chez nous. Non. On a de la chance ici, en fait, on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en France, on a des écoles de musique avec des salles qui ferment, avec des instruments, des pianos, etc. Bon, en Haïti, c'est pas tout à fait la même chose. Les écoles de musique se réduisent parfois à une ou deux salles, avec très peu, enfin un piano droit dans un coin qui est pas forcément en état de marche. Donc il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, mais il y a plein d'enfants qui viennent chaque jour apprendre la musique. Il y a des professeurs. Et donc là, ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est d'inciter, en tout cas, enfin tous les artistes qui seront là viendront et donneront des cours. Feront des ateliers, des masterclass, comme je le disais. Et à plus long terme, pour ce projet, donc Haïti Piano Project, dans son ensemble, au-delà du festival, moi j'essaye de mettre en place un programme à long terme de travail avec les écoles de musique qui soit au-delà du festival qui va durer juste 8 jours.
Mais Célimène Daudet, pour faire un festival, il faut un piano. Mmh. Et il y en avait des pianos là-bas sur place?
Il n'y en avait pas vraiment, non. Donc il a fallu en faire venir un. Ça a été le premier grand défi de ce projet, ça a été de faire venir un piano, un vrai beau piano qui permette de faire un vrai beau festival. Parce que ma conviction, c'était que, bien sûr, le pays, on l'a dit, est en difficulté, et même s'il y a une vie musicale très riche, il n'y avait pas de festival de musique classique et pas de beau piano. Donc, la conviction que j'ai, c'est que même s'il y a des difficultés, et si on crée quelque chose, on doit le créer de la manière la meilleure qui soit. Donc il n'y a pas de raison qu'un pays pauvre ou qui a des difficultés n'ait pas aussi un bel événement de musique classique ou avec un beau piano pour pouvoir... Enfin moi, c'est parce que je suis pianiste aussi, mais je trouve que le piano, quand même, symboliquement, c'est assez rassembleur d'avoir ce gros instrument autour duquel on peut faire tous les styles de musique et toutes les formations possibles.
Donc il a fallu l'amener, c'était une aventure d'apporter ce piano là-bas, parce qu'en plus, je ne sais pas les routes, comment ça fonctionne, il n'y a peut-être pas de livreur de piano, peut-être des questions un peu bêtes, mais...
Non, il n'y a pas de... Alors il n'y a pas d'entreprise...
En plus, le climat pour les pianos, pour le bois du piano, ah oui, non, c'est un climat très humide, non ?
C'est bien des questions, c'est toutes les questions qu'on s'est posées, vous avez raison de les soulever. C'est un climat très humide, alors le piano qu'on a choisi, que j'ai choisi, c'est un piano qu'on appelle tropicalisé. Qui est fabriqué.
Un piano tropicalisé.
Tropicalisé, c'est rigolo.
Ça c'est qu'il a plein de couleurs. Il a été peint, non ?
Non, pas encore. Mais en tout cas, il est conçu, il est fabriqué pour pouvoir mieux résister aux climats tropicaux. Le bois est cerclé, en quelque sorte, enfin tenu de manière à ce qu'il ne joue pas ou il ne gonfle pas malgré l'humidité. Donc c'est important d'avoir ce type de piano dans des pays tropicaux parce que sinon, il aura une durée de vie vraiment limitée. Donc c'est ce type de piano qu'on a choisi. Et puis, alors pour le faire venir, ça a été tout un périple. Il a été acheté à Panama, qui est l'importateur. On a le droit de dire des marques à la radio ? On n'a pas le droit de dire des marques.
Une marque de piano.
Oh, bah Yamaha, alors voilà.
Ah oui, on a le droit de le dire.
C'est l'importateur Yamaha pour la zone Caraïbe est à Panama. Donc on l'a acheté à Panama. Et puis ensuite, il est parti en bateau. Il a voyagé de Panama en Colombie, puis en Jamaïque, et puis en République Dominicaine. Et il est arrivé en Haïti où il a pris la route.
C'est un piano de contrebande, votre piano, c'est Imen Dodé.
Ah bah c'est vous qui le dites, mais non, pas du tout.
C'est sûr qu'il n'y avait rien dans le couvercle du piano quand il est arrivé à
Bangkok. Ça, je ne le dirai pas à l'antenne.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc c'était un sacré périple.
Ouais,
et qu'est-ce qui va devenir ce piano une fois que le festival sera terminé ? Alors, vous allez le laisser
oui,
sur place ?
Oui, bien sûr, on va le laisser. Il va être à disposition des artistes et des pianistes haïtiens. Il sera hébergé dans un studio d'enregistrement à Jacmel, où il n'y avait pas de piano. Et ça permettra, je l'espère, à tous les artistes et groupes haïtiens, que ce soit de musique, d'autres styles de musique, bien sûr, jazz ou pop ou autre chose, qui ont besoin d'un piano et d'enregistrer leur disque, de pouvoir le faire en Haïti et de ne pas être obligé d'aller à Miami ou je ne sais où pour faire leur disque. Parce qu'il y a un très beau studio d'enregistrement à Jacmel qui a été financé par une fondation américaine, mais il n'y avait pas de piano. Donc ce sera en fait le seul studio d'enregistrement avec piano. En Haïti.
Ça me fait penser ce que vous dites à cette question que je n'ai pas posée, la question du financement justement. Qui a payé ce piano ? Qui finance ce festival puisque les concerts sont gratuits ?
Oui, alors y a le piano, il a été financé grâce à un très bel élan de solidarité générale. Ça a été financé exclusivement par des dons de particuliers, d'une fondation également, mais principalement des dons. On a lancé un crowdfunding il y a quelques mois qui a bien marché et qui a permis de financer ce piano, ce qui était quand même assez extraordinaire et galvanisant de sentir cet élan autour de ce projet. Et le festival, on a beaucoup de partenaires locaux, des partenaires haïtiens, différents partenaires haïtiens et des partenaires français en Haïti comme l'Institut français, l'Alliance française. On a une quinzaine de partenaires qui nous permettent du coup de financer ce festival.
C'est Imen Dodé, on va vous écouter de nouveau au piano puisque dans quelques mois, fin janvier, vous allez faire paraître sous le label Nomad Music un tout nouveau disque. En voici un premier extrait. Thank you. C'est un joli cadeau que vous nous faites ce matin, Célimène Daudet, avec ce premier extrait de votre futur disque. Il n'est même pas encore pressé, c'est ça?
Ah, je crois qu'il vient tout juste de partir à l'usine, donc c'est du tout neuf.
Voilà, il sortira donc fin janvier sous le label Nomad Music. Alors là, ce qu'on entendait, c'était un extrait du livre 2 des préludes de Claude Debussy, Les fées sont d'exquises danseuses. Célimène Daudet, c'est quoi le programme exact de ce disque?
Alors,
à venir?
Le programme
du Debussy et
aura,
du Messiaen.
Voilà, Debussy et Messiaen, il y aura tout le livre 2 des préludes de Debussy et les 8 préludes de Messiaen que j'ai souhaité associer, croiser dans un même disque. L'idée, c'était de faire un disque pour célébrer le centenaire de la mort de Debussy en 2018, mais je voulais essayer de créer une passerelle entre la musique de Debussy et la musique d'un de ses successeurs, que moi, je trouve en tout cas être un de ses successeurs, c'est-à-dire Messiaen, notamment dans cette œuvre de jeunesse de Messiaen, que sont ses préludes et dont on entendra, je crois, un extrait tout à l'heure. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y a un vrai lien, une vraie filiation entre ces deux univers musicaux, notamment à travers la question de la couleur, l'utilisation du clavier, des textures, et aussi cette manière assez suggestive de proposer la musique à travers des titres très poétiques, très inspirants.
C'est des musiques d'atmosphère. Hein,
c'est des musiques
Messiaen
d'atmosphère.
Et Debussy,
ouais,
plus que des musiques de mélodie, d'une certaine
exactement,
manière.
Exactement, c'est des musiques d'atmosphère, c'est des musiques qui sont très peu en réalité thématiques. On peut pas se dire, tiens, je vais chanter le thème de tel prélude ou de tel autre. C'est vraiment des musiques. À l'intérieur de chaque prélude, il y a tout un petit univers qui se crée, un univers sonore. On est vraiment plongé au cœur du son et au cœur de cette texture pianistique très riche chez chacun des deux compositeurs.
On a presque l'impression que c'est anti-pianistique, cette musique-là, parce que le piano, c'est quand même un instrument à percussion. Et quand on écoute ces préludes de Debussy, encore plus peut-être dans la musique de Messiaen, on a l'impression qu'il faut que le pianiste fasse oublier le côté percussif justement du piano pour trouver une sorte d'atmosphère comme ça.
Oui, il y a effectivement très peu cette notion de percussion dans ces musiques-là. Il y a plus une notion de mettre en valeur la couleur et la palette de couleurs possibles et de textures possibles que le piano permet. Il y a une utilisation des pédales qui est très, très riche aussi, qui permet aussi de créer ces atmosphères très particulières et très enchanteresses et poétiques. Donc j'ai souhaité les rassembler parce que finalement, quand on pense à la musique de Messiaen, la musique pour piano, on néglige un tout petit peu, je trouve, ces préludes qui sont très beaux et qui tout en étant, en ayant déjà la patte de Messiaen, sont aussi très liés à la musique de Debussy.
C'est vrai qu'on connaît plus les oiseaux.
On connaît les 20 regards sur l'enfant Jésus.
Voilà.
On connaît des œuvres plus tardives, mais ça, c'est vraiment presque la toute première œuvre de Messiaen pour piano, en tout cas celle dont il était fier et dont il disait lui-même que c'était la première œuvre qu'il assumait complètement en tant que compositeur.
C'était 8 préludes qu'il avait composés d'un seul coup pour
créer un tout.
Des préludes qu'il avait réunis ensuite?
Il a créé un tout complètement, 8 préludes successifs. Ouais.
Et on sait dans quel contexte il avait écrit ces préludes, c'était une commande, c'était pour
lui?
Non,
c'était pas une commande, c'était pour lui, c'était vraiment la première œuvre pianistique qu'il disait être une œuvre réussie.
Alors on va en écouter un extrait justement de ces 8 préludes d'Olivier Messiaen. C'est toujours vous qui jouez, Célimène Daudet, et le 7e de ces 8 préludes s'intitule « Plainte calme ».
Thank you.
C'est vraiment de la très très belle musique. Hein.
On a du mal
à reprendre la parole derrière ça. Hein. Plein de calme.
Plein de calme, c'est vraiment un des préludes que je préfère, qui est extrêmement, qui est presque suspendu comme ça, et très poétique et en même temps très intense.
Le 7e des 8 préludes d'Olivier Messiaen que vous interprétez, Célimène Daudet. Ce sera donc sur votre prochain disque, apparaître sous le label Nomade Musique fin janvier. Prélude de Messiaen et de Debussy. On va redonner les dates de votre festival de piano à Haïti, le Haïti Piano Project. C'est du 8 au 15 novembre prochain. Il va être temps de se quitter dans quelques instants, Célimène Daudet. J'ai une question incontournable et je suis obligé de vous la poser parce que c'est un peu l'actualité en ce moment. Vous avez certainement suivi depuis quelques semaines l'affaire Weinstein, dont on parle tous les jours, absolument partout dans tous les journaux, encore ce matin, sur la place des femmes dans les arts et dans la musique en particulier. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, en tant que femme pianiste, une forme de sexisme dans le milieu musical ?
Eh bien, pas tellement. En fait, alors peut-être que certaines de mes collègues diront l'inverse, mais moi j'ai jamais ressenti cette forme de sexisme, en tout cas en ce qui me concerne, et j'ai pas eu l'impression d'être freinée dans ma vie d'artiste parce que j'étais une femme. Je trouve que de toute manière il faut se battre pour pouvoir faire les choses. Je sais pas si une femme doit se battre plus, je sais pas, mais moi à titre personnel, j'ai eu la chance en tout cas.
Vous allez me dire, en même temps, les pianistes sont souvent un peu plus solitaires, donc peut-être moins confrontés.
On est moins confrontés, c'est vrai qu'on est moins confrontés
à
d'autres. Ouais, on est souvent seul, on travaille seul, on est plus ou moins, enfin la plupart du temps seul sur scène, donc il y a souvent des intermédiaires aussi, les agents, etc., qui jouent le rôle d'intermédiaire avec des programmateurs. Donc on est en fait peut-être un peu plus protégés, ou en tout cas à l'abri de.
Célimène Daudet, une femme heureuse qui joue du piano.
Pour l'instant.
Merci d'être venue nous voir ce matin sur France Musique dans Musique Matin. Ah, vous vouliez qu'on se quitte en écoutant la valse, la grande valse de Ravel, sa version symphonique. Pourquoi ? Il y a une raison particulière ?
Ah, mais parce que c'est une œuvre incontournable, je trouve, du répertoire. Enfin, c'est magnifique, donc j'avais envie de la proposer aux auditeurs.
Et ça nous entraîne, ça tournoie jusqu'à la catastrophe finale. Merci beaucoup, Célimène Daudet. On vous souhaite bon vol,
merci,
bon vent, bon festival et à très bientôt.
À bientôt.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien après cette musique. C'était la fin de la grande valse, la valse tout court, mais elle est grande, de Maurice Ravel, interprétée par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris sous la direction de Philippe Jordan. Vous pouvez bien sûr retrouver cet entretien avec Célimène Daudet sur notre site internet francemusique.fr. Vous pouvez même podcaster cet entretien, ça s'appelle l'invité du jour. Il est 8h53, il est temps d'accueillir notre histrion de service, celui qui écrit, qui compose pour nous depuis le début de l'année une opéra un peu spécial, c'est Guillaume Thion et c'est l'heure de sa chronique en partenariat avec Libération. Bonjour Guillaume.
Bonjour Clément. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, après Ravel, nous allons composer.
Alors vous êtes toujours sur l'ouverture de votre opérette du Néolithique.
Oui, c'est ça. Angélix, marquise de Lascaux. Alors, je rappelle les enjeux. Notre aventurière Angélix se marie avec Francix. Mais dans la grotte, alors qu'elle s'approche de l'hôtel cérémoniel, elle glisse, se cogne la tête contre une peinture rupestre et perd la mémoire. Du coup, elle s'enfuit dans la forêt où, désespérée, elle tombe sur le méchant, le redoutable Radvodka.
Et tout ça, tient dans une chanson.
Bien sûr, car nous n'allons pas composer une chanson avec refrain, couplet et encore moins reprise d'acapo. Nous envisageons cette ouverture sous la forme d'un drame lyrique très giocoso, Clément, très simple. Premier temps, Angélix vers l'hôtel se cogne la tête, musique de mariage. Deuxième temps, dialogue entre Angélix et Francix, puis Angélix fuit, musique précipitée. Troisième temps, dans la forêt, Angélix amnésique se lamente, musique triste, puis elle tombe sur Rat de vodka.
Mais c'est copieux quand même.
Certes, c'est copieux, mais nous sommes aidés par nos précédents invités qui nous ont donné quatre notes sur lesquelles nous allons broder ré, mi, la bémol, sol. Tout de suite, on entend l'intervalle du diable, le triton sur le ré, la bémol. On se croirait dans la danse macabre. Alors, ces quatre notes ne constituent pas une gamme, mais elles forment un accord très étonnant. Au plus simple, c'est un accord de mi-7 sans quinte auquel on ajoute une neuvième augmentée, ce qui en fait un accord à deux tierces, une majeure et une mineure. Mais joué en même temps. Voilà. Alors, que faire avec ça, Clément ? J'en étais à me dire qu'on pouvait proposer tout ce qu'on voulait dessus en termes de gamme augmentée et diminuée, puisqu'on y trouve un intervalle d'un ton et un autre d'un demi-ton. Je nous imaginais déjà dans des ambiances modernes, avec une musique décrivant le trapèze d'Angélix, quand j'ai eu une idée. Faire appel à un professionnel, comme toutes les semaines, pour cette chronique, Clément.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, Guillaume Thion, c'est une opérette participative. Vous sollicitez l'aide des gens du métier.
Tout à fait. Et j'ai alors pensé à Arthur Ancel, qui a arrangé la danse macabre dans un récent CD avec Ludmila Berlinskaya. Je lui ai soumis les quatre notes et son jugement a été limpide. Nous étions tout bêtement, Clément, dans un environnement de Do majeur avec un retard sur la quinte, c'est-à-dire en jouant un La bémol à la place du Sol.
Évidemment, Guillaume.
Et bien sûr, mais ça m'avait pas tapé tout de suite dans l'oreille car je partais déjà vers des échanges altérés, j'avais oublié les fondamentaux, la base. D'un coup, tout s'est éclairé. Pour faire reluire ces quatre notes, appelons tout simplement notre ami Anatole.
C'est qui Anatole, Guillaume ?
Anatole, c'est la cadence la plus populaire, la plus usitée. 1, 6, 2, 5. Ici, Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7 altéré. Et voilà un brouillon de notre passage triste. Harmonisons d'un Anatole main gauche les quatre notes répétées à la main droite. Le thème devient poignant. Et Angélix, sa joue rouge de peinture, de nous dire alors où suis-je, quand suis-je ? Pourquoi ce mammouth me regarde-t-il avec ses drôles de grands yeux injectés de sang ? Pourquoi cette forêt ? Ah, je me souviens, j'ai entendu ce gros homme tout à l'heure me demander en mariage.
Angélique, voulez-vous être ma femme ?
J'ai couru sans m'arrêter. Pourquoi s'arrêter ? Pourquoi se marier ? Et qui suis-je ? Ah, le mammouth me regarde. Bonjour mammouth, sais-tu qui je suis ?
Oui, tu es Angélix et je vais te fumer.
Voilà, alors c'était bien évidemment Rat de Vodka. Cette fin est un petit peu précipitée. La suite, la semaine prochaine, Clément.
Merci beaucoup Guillaume Thion. Je vois que ça avance à vitesse grand V, bah, cette
oui,
opérette.
Oui, oui.
Il va falloir un peu de Tim Boum Boum quand même, parce qu'une opérette c'est un peu léger, non ?
La semaine prochaine,
Clément. Ah d'accord, c'est la semaine prochaine. Bon, d'ici là, on peut réécouter tout ça sur francemusique.fr. On peut podcaster cette chronique de Guillaume Thion pour voir cette opérette se construire très progressivement. Et puis on vous retrouve à 8h53 au micro de Saskia Deville la semaine prochaine. Bah voilà, c'est la fin de cette émission. Il va être temps de se quitter maintenant.
À réécouter sur francemusique.fr.